Deuxième partie. Chapitre 1. Anna Ruben, un scénario d'Agnès Duguin, barré et remplacé par Septembre. Scène 1. Lyon, 1942. Grand appartement bourgeois. Parquet, moulure au plafond. Vaste salle à manger, salon dont la lumière de juillet inonde les murs à travers de grandes fenêtres. Des officiers allemands déplacent un piano à queue noire sur des plateaux à roulettes. Ils crient fort, transpirent, semblent à la fois exaltés, nerveux, pressés. Certains décrochent des tableaux, d'autres embarquent de la vaisselle, deux ménagères en argent dans leur coffret, une hanoukia, chandelier à neuf branches utilisé par les juifs lors de la célébration de Hanouka, deux lampes galées, un miroir. Note. Faire des gros plans sur les photos de famille. Parents, deux enfants, un bébé. Scène 2. Chambre à coucher. Gros plan sur des doigts masculins qui fouillent dans des tiroirs et en ressortent en riant trop fort de la lingerie, des bâtons de rouge à lèvres et des poudres caron. Ce plan doit s'apparenter à un viol. D'autres SS débusquent une armoire à double fond. Ils dérobent tous les bijoux, à préciser avec accessoiriste, de l'argenterie, dont une timbale de naissance sur laquelle est gravé le prénom Anna. Scène 3. Même immeuble. Plan d'ensemble extérieur. On passe à l'étage du dessous, chez la famille Gravoin. Au même moment, la petite Anna, 2 mois, seule rescapée de l'arrestation dont ses parents, son frère et sa sœur aînée viennent d'être victimes à l'étage au-dessus, est dans les bras d'une vieille dame qui lui chante une chanson à voix basse. Insensiblement, vous vous êtes glissé dans ma vie. Insensiblement, vous vous êtes logé dans mon cœur. J'ai trouvé en vous, mieux qu'une amie, mieux qu'une sœur, nous formons une harmonie, l'accord majeur. À ses côtés, Éléonore Gravoin, une femme d'environ 30 ans, beaux traits, angoissée, écoute les pas des officiers au-dessus de sa tête. Elle retire une première gourmette sur laquelle on peut lire Anna du poignet du bébé endormi, et en attache une autre sur laquelle on peut lire Marthe. Fondu enchaîné. 1952. 10 ans plus tard, la petite fille porte 2 gourmettes au poignet, sur lesquelles on peut lire Anna et Marthe. Éléonore, la femme qui priait dans la scène précédente, a 40 ans, et la vieille dame qui chantait gît, morte à la lumière de bougies. Plusieurs personnes sont recueillies autour du lit sur lequel elle repose, dont la jeune Anna, un violon entre les mains. Elle commence à jouer l'air de la chanson « Insensiblement » pour sa grand-mère défunte. La fillette est dévastée par le chagrin. Elle joue magistralement. Fondu enchaîné. 1962. Anna a 20 ans et porte toujours ses 2 gourmettes au poignet. Elle se tient devant un magnifique gâteau. Des amis de son âge, 3 filles, 2 garçons, jouent pour elle l'air de joyeux anniversaire au violon. Éléonore et son père adoptif, Benjamin, sont près d'elle. Éléonore lui dit « Fais un vœu, ma chérie ». Anna ferme les yeux et souffle sur les bougies. Tout le monde l'applaudit. C'est une jolie jeune fille aux nattes châtain clair, solaire et timide. On la sent très émue. Anna. Mes chers parents, mes chers amis, cela fait 20 ans que la guerre m'a volé mes autres parents, mon frère et ma sœur. Et je pèse mes mots quand je dis voler. On me les a arrachés pour les exterminer. Il me reste quelques photos grâce à maman. Elle plonge son regard dans celui d'Éléonore. Et parfois je rêve d'eux. Ils viennent me voir dans mon sommeil, me parlent et me regardent de là où ils sont comme s'ils cherchaient à me rassurer. Je ne peux m'empêcher de penser à eux aujourd'hui. Eux qui n'ont pas eu ma chance, celle de vivre, d'être aimée et protégée par ma famille providentielle. Papa, maman, je n'ai jamais parlé de vous comme de mes parents adoptifs, mais comme de mes autres parents. Si ma mère biologique ne m'avait pas confié à mon autre maman la veille de la rafle, je ne soufflerais pas mes 20 printemps aujourd'hui. J'ai aussi une pensée émue pour ma chère grand-mère. Elle lève le bras pour montrer son poignet. Je remercie Marthe, celle qui a sauvé Anna des griffes de la folie antisémite. Je garderai ces deux gourmettes autour du poignet pour ne jamais oublier. Maintenant, place à la fête. Je lève mon verre à ceux que j'aime et aimerai toujours. À mes amis du conservatoire, et que la vie soit belle. Tout le monde l'applaudit, crie en chœur « Joyeux anniversaire ». Ses amis du conservatoire jouent une valse joyeuse et entraînante, au violon. Tout le monde se met à danser. 8 novembre 2010. Mon téléphone sonne, je réponds parce que c'est Liès. Ça va, Liès ?
T'as une drôle de voix. Qu'est-ce que tu fais ?
Je relis des notes.
Ah ? Quelles notes ?
J'ai commencé un scénario sur l'histoire de ma mère.
Quelle putain de bonne nouvelle !
Ce sont des notes, pas un projet.
Dommage.
Toute cette histoire, ce que je vis en ce moment, me donne envie de me pencher sur la vie d'Anna Ruben.
Je connaissais pas son nom.
C'était la seule rescapée d'une rafle. Elle a été cachée par une famille catholique qui a fini par l'adopter. Les siens ne sont jamais revenus.
Vous savez ce qu'ils sont devenus ?
On a le numéro du convoi pour Auschwitz. Ma grand-mère, mon grand-père, ma tante et mon oncle ont été exterminés.
Tu m'as jamais raconté ça ?
Maman n'en parlait pas, alors je n'en parlais pas.
Tu es juive, Agnès ?
On l'est par sa mère, donc je suis juive. Papa allait à la messe quand il revenait à Guignon, en mémoire du père Aubry. La vérité, c'est qu'ils étaient tous les deux croyants, mais pas pratiquants. Je n'ai jamais mis les pieds dans une synagogue.
Tu devrais en faire un film.
Yes, j'ai plus envie de faire des films. J'ai réservé une table à 19h. Je veux vous présenter Paul.
Il dort où ?
Au Monge. Où veux-tu qu'il dorme ? C'est le seul hôtel.
Pourquoi il dort pas avec toi ?
Paul n'est pas mon mec. C'est un flic que j'ai consulté plusieurs fois pour des conseils techniques et...
Ouais. Lynn sera là.
M'interrompt-il. Lynn ?
Plumet, la fille de la mairie. Je suis amoureux, je veux l'épouser.
J'éclate de rire.
Ne ris pas, je suis sûre de moi. On va se marier, je t'ai dit, j'ai plus de temps à perdre.
Liès, tu l'as rencontré la semaine dernière.
Et alors ?
Alors pourquoi te marier ?
Parce que je suis romantique.
On peut être romantique et ne pas s'épouser.
Je crois pas.
Tu es sérieux ? En fait, tu es un vieux conservateur.
Oh, à tout à l'heure. Agnès ?
Oui ?
Tu devrais en faire un film.
Il raccroche. Paul s'est assis à côté d'Adèle, Hervé à côté de Lynn, qui s'est assise près de Liès. Ils se tiennent la main sous la table, Nathalie et moi en face de cinq. En tirant ma chaise, j'ai pensé à mon premier film, Le banquet des anciens. À la place que nous choisissons autour d'une table, ou à celle que les autres choisissent pour nous. J'ai toujours eu horreur des plans de table. Ils dénotent quelque chose de désagréable, un truc qui gratte comme un mauvais col en laine. D'autres décident pour vous, vous infantilisent. Qui sera le mieux placé ? On trie par catégorie, pas par affinité. L'invité est-il un 5 étoiles, 4 étoiles ou seulement 3 ? En Corse, après le tournage du banquet des anciens et notre mariage, j'accompagnais Pierre à un dîner très mondain, où stars de télévision et comédiens célèbres se retrouvaient pour les vacances. Pierre et moi avons été séparés dès notre arrivée, et je me suis retrouvée à la table des enfants, entre deux petites filles et un jeune adolescent charmant. On n'avait pas su quoi faire de moi, la jeune courtisane ou fan, accompagnant l'immense acteur Pierre Duguin. Personne ne m'avait adressé la parole. Personne ne savait que nous venions de nous marier. J'avais bu beaucoup de champagne pour atténuer mon malaise. Et j'avais fini par jouer au Uno avec les enfants. Quelques mois plus tard, mon film était sorti et il avait rencontré un succès immédiat. J'ai recroisé l'hôtesse qui m'avait expédié en bout de table avec les têtes blondes à son dîner. Elle ne se souvenait absolument pas de moi. Une page blanche. Je n'ai rien dit, bien sûr. Elle a longuement encensé mon travail et a terminé son monologue en me proposant un dîner chez elle, à Paris, avec quelques amis triés sur le volet. Nous étions dans un festival de cinéma, je ne me rappelle plus lequel. J'ai poliment répondu que je n'avais pas mon agenda et que je lui téléphonerais. Paul nous a appris, bien que ce soit confidentiel, que l'exhumation de Blanche aurait lieu le 25 novembre. soit 10 jours après les funérailles de Colette. Je nage en plein dans les cimetières en ce moment. Paul expédie le dîner. Il a encore beaucoup de travail, nous dit-il. Il est aimable avec tout le monde, s'intéresse au métier d'Adèle, lui pose de nombreuses questions sur son quotidien d'infirmière libérale. « Vous commencez à quelle heure? Combien de personnes par jour? Vous devez en voir des vertes et des pas mûres. » Il nous a révélé que Soutkovski était sans doute venu à Gueugnon après avoir pris connaissance de l'article de Nathalie, repris un peu partout. Il a dû être intrigué par cette histoire, et surtout par la photo qui accompagnait le papier. Sinon, pourquoi aurait-il remis les pieds ici? Nathalie est catastrophée, confuse. Il la rassure, elle n'y est pour rien. On ne peut pas contrôler la folie d'un homme. Paul ne mentionne pas le fait que ce cinglé est entré chez moi par effraction, ni qu'il a volé la boîte de photos, car il ignore si je leur en ai parlé. Et je m'en suis bien gardée. Je n'ai aucune excuse. Ne pas verrouiller la porte est d'une stupidité désarmante, surtout que cette maison était le refuge de Colette. Si elle s'y est cachée pendant 3 ans, c'est qu'elle s'y sentait protégée. Et moi je débarque et laisse le lieu ouvert à tout vent. Paul nous informe que le cimetière de Gueugnon sera surveillé jusqu'à l'exhumation, car la notoriété de Soutkovski est montée en flèche depuis le meurtre de Mathilde Pinson. Il est aussi le suspect numéro 1 du meurtre présumé de Victor Socha, dont le corps a été retrouvé dans son jardin. L'autopsie est en cours. La police n'informe pas la presse pour l'instant. Tout ce qu'il nous confie doit rester entre nous, autour de cette table. On a évoqué le meurtre de Mathilde Pinson, mais sans plus de précision. Il ne faut pas que Soutkovski sache qu'il est recherché sous l'identité de Socha. Et quand il sera sûr que c'est sa fille qui repose au cimetière, j'ai l'intuition qu'il se foutra en l'air. Mes amis sont stupéfaits. De tous, c'est Adèle qui paraît la plus troublée. Elle est pâle comme la mort. Elle finit par demander si je ne suis pas en danger. Paul secoue la tête, la rassure. L'obsession tourne autour de Marie Roman, qui vit sous une fausse identité, et de Blanche Soutkovski.